Et je vais passer la parole à Joël Martelet de l'Église réformée.
Bonjour à tous. Je vous invite à prier avant la lecture de la Bible. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence ce matin. Nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole toujours unique, toujours vivante et toujours nouvelle que tu as pour chacun de nous. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir cette parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais aussi la mettre en pratique. Qu'avec ton esprit, nous ayons la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, avec toi et avec nos frères et sœurs. Fais que non seulement nos esprits soient touchés, mais encore notre cœur pour mieux t'aimer, toi notre Dieu, et aimer nos frères et sœurs. Et nous te demandons aussi de soutenir notre frère Philippe Gonzalez, qui va nous donner ton message. Soutiens-le par ton esprit pour que tu sois glorifié et que nous soyons édifiés. Amen. Alors, je vais d'abord lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Nous lirons maintenant dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 9 à 15. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y apporter la bonne nouvelle. De Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main.
Bonjour. Paul et ses compagnons avaient décidé du chemin qu'ils allaient emprunter. Mais Dieu en avait décidé autrement. Sur le papier, le projet semblait impeccable. Partager la bonne nouvelle en Asie. Quoi de plus noble? Quelle raison de s'opposer à un voyage qui ferait avancer la cause de l'Évangile? Dieu tenait pourtant en réserve une autre voie pour eux. Au point que par deux fois, quelques versets avant le passage que nous avons entendu, il est dit que l'Esprit de Dieu empêchait Paul et ses compagnons d'emprunter l'itinéraire qu'ils avaient prévu. Le texte ne dit pas de quelle manière Paul et ses compagnons ont reconnu l'action de l'Esprit. Sur le moment, ils ont été confrontés à des difficultés telles qu'ils ont été obligés de dévier de leur route. Que s'est-il passé? Se sont-ils perdus? Ont-ils fait l'objet de menaces, de maladies? Le livre des Actes n'en dit rien. Il nous dit par contre comment Paul et ses compagnons ont interprété ces événements par la suite. Dans ces contretemps qui les frustraient, ils ont reconnu l'action de l'Esprit. Cette lecture n'est pas évidente. Il n'est pas facile de considérer les événements qui déroutent le cours de nos vies comme le fait de l'action de Dieu. Ce n'est pas facile parce qu'on tend à voir Dieu comme celui qui nous conduit vers le succès et non comme celui qui pourrait nous barrer la route. À l'inverse, certaines personnes ont tendance à attribuer à Dieu tout ce qui leur arrive. Quand je dis tout ici, c'est un peu tout et n'importe quoi. En un certain sens, il est vrai que Dieu n'est jamais loin de ce qui nous arrive. Mais cela ne signifie pas que Dieu désire tout ce qui nous arrive. Parfois, il laisse les choses suivre leur cours. Parfois, il fait une irruption marquée dans notre vie, au point que nous avons l'impression que les événements que nous vivons sont guidés par une main invisible. Mais parfois, Dieu semble étrangement silencieux. Et nous nous demandons s'il existe bel et bien. Ou si notre foi n'était après tout qu'une chimère. Les circonstances contraires ont poussé Paul et ses compagnons à percevoir l'action de Dieu d'une autre manière. Dieu n'agit pas seulement dans les moments heureux, Dieu n'agit pas toujours de la même manière
ou avec la même intensité. Mais pour percevoir avec une meilleure acuité cette action de Dieu, Paul et ses compagnons ont dû se rendre plus disponibles à sa présence. Cette présence, ils ont dû apprendre à la discerner. On en vient alors à cette vision de Paul qui indique la voie à suivre. Cette vision n'arrive pas n'importe quand. Elle survient après deux empêchements majeurs qui ont obligé les voyageurs à rajouter plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres à leur route, sans qu'ils soient en mesure d'atteindre leur objectif. Ils se trouvent dans une impasse. Cette vision arrive pendant la nuit, alors que la lumière du jour s'en est allée. Paul voit quelque chose, il voit quelqu'un, et il l'entend même, alors qu'il n'y a rien à voir. Pensez-y, dans la nuit, on ne voit rien. Pourtant, Paul voit quelque chose. Paul rêve-t-il ? Le texte ne le dit pas. Disons que Paul se trouve dans un état entre la veille et le sommeil. Paul n'est pas occupé à agir, il n'est pas occupé à marcher, il n'est pas occupé à discuter de ses projets avec ses compagnons. Non, Paul se trouve dans une forme de passivité, de réceptivité, de dépossession. Paul ne maîtrise pas la situation. Et c'est là que l'Esprit de Dieu l'interpelle pour la troisième fois. Et cette fois, ce n'est pas pour lui barrer la route, mais pour lui ouvrir un chemin. Et quel chemin ? Mais avant d'évoquer ce chemin, revenons à l'état dans lequel se trouve Paul. Ou plutôt, à l'état dans lequel Paul devient réceptif à une parole qui vient de Dieu. Cette réceptivité arrive dans le silence de la nuit, dans la passivité, lorsque Paul n'est plus dans l'action. Il se rend alors disponible pour une certaine écoute. Paul et ses compagnons ont sûrement dû évoquer leur frustration durant leur voyage. Ils ont dû méditer sur ce qui leur arrivait. Ils ont certainement réalisé des choses, mais ces échanges n'étaient pas suffisants. Il fallait une autre qualité d'écoute, plus profonde, sensible à ce que Dieu murmure au fond de chacun de nous. Il nous faut alors revenir à la façon dont Dieu est présent dans nos vies, ou plutôt à la façon dont nous laissons Dieu être présent dans nos vies. Si nous sommes sans cesse actifs, pris dans le brouhaha de nos existences et même de nos églises, braqués sur nos objectifs, aussi pieux soient-ils, quelle écoute accordons-nous à Dieu. Quelle place lui donnons-nous pour orienter le cours de nos vies? Pourtant, Dieu est là. Il attend que nous entrions dans le silence pour parler à notre cœur. C'est bien cette même écoute que mettait en œuvre le Christ. Cette écoute, il la pratique notamment à la veille de choisir ses disciples. Dans l'évangile de Luc, on peut lire ceci. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Si nous souhaitons Dieu appeler Dieu notre Père, peut-être qu'il faudrait avoir des moments d'écoute avec lui comme on pourrait les avoir avec notre Père. Une telle écoute peut réorienter le cours de nos vies. C'est ce qu'elle a fait pour Paul et ses compagnons. Car la vision qu'a reçue Paul n'est pas demeurée la vision de Paul. Elle est aussi devenue la vision de ses compagnons. De façon frappante, un nouvel acteur fait irruption dans le livre des Actes au moment où Paul reçoit cette vision. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais le texte dit, je cite, « Nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y apporter la bonne nouvelle. » Ce nouvel acteur dans le livre des Actes, c'est nous. Nous. Ce « nous », ce n'est pas vous et moi, ça pourrait l'être, mais ce n'est pas vous et moi. C'est d'abord Paul et ses compagnons. Mais remarquez, nous, c'est autre chose que Paul et ses compagnons. C'est un collectif, un groupe, qui parle de l'intérieur, en première personne. C'est une façon de dire « je », mais ensemble. Jusqu'alors, Paul et ses compagnons subissaient des événements qui les empêchait d'atteindre l'objectif qu'ils s'étaient donné. À présent, Paul et ses compagnons sont devenus un « nous ». Ils deviennent acteurs des événements auxquels ils prennent part. Avant, ils tentaient d'être des acteurs de leur vie, mais quelque chose manquait à leur écoute de Dieu. Ils agissaient presque à la place de Dieu, au point d'obliger l'Esprit de Dieu à freiner leur action. À présent, ils se sont mis à l'écoute de Dieu, dans une situation de passivité. Et c'est lorsqu'ils sont passifs qu'ils deviennent acteurs de leur vie. L'écoute de Dieu a transformé leur rapport aux événements. Mais cette même écoute a transformé leur rapport les uns aux autres. Ils sont devenus un « nous ». Et ce n'est pas parce que la vision a été donnée à Paul qu'elle est restée la vision de Paul. Cette vision a été discutée par le groupe, mise à l'épreuve du groupe, jusqu'à devenir une vision collective, la vision du groupe. Nous avons là une marque distinctive de la vie spirituelle telle que la conçoit le christianisme. Mon écoute de Dieu doit pouvoir être partagée et participer à la vie de la communauté. Tout don spirituel participe à l'animation de l'Église, en tant qu'elle est un corps solidaire. Il n'est pas question ici de revendiquer pour moi une quelconque excellence spirituelle. Ce que je reçois, c'est d'emblée pour moi et pour les autres. Ainsi Dieu se tient au cœur de ma vie, dans l'attente que je me mette à son écoute. Et lorsque je prête attention à ce qu'il a à me dire, mon rapport à mon existence change. Mais c'est aussi mon rapport aux autres qui change. Et ces autres, ce sont les personnes que je côtoie jour après jour. Ce que Dieu me dit, dans le secret de mon cœur, m'amène à former une communauté plus étroite avec les hommes et les femmes avec lesquels je suis amené à cheminer dans l'existence. Et pour être plus précis, tout comme Paul, nous avons besoin de cette communauté. Nous avons besoin de dire nous. Nous avons besoin de cette communauté qu'est l'Église, dans laquelle nous partageons et nous mettons à l'épreuve ce que nous croyons recevoir de la part de Dieu. Paul et ses compagnons se sont mis à l'écoute. Ils ont reçu une vision qui leur a ouvert un chemin. Ce chemin consistait à traverser la mer pour passer en Europe. Cette vision, reçue dans la nuit, après avoir connu l'échec, a changé le cours du christianisme et a changé le cours du continent européen. Paul et ses compagnons pressentaient bien que quelque chose se jouait cette nuit-là. Pour nous, 2000 ans après, nous mesurons l'impact de cette décision prise après une vision. Nous sommes les héritiers de cette vision. Pourtant, l'évangélisation de l'Europe a commencé de façon humble, modeste, dans la précarité. Paul et ses compagnons ont connu bien des revers sur le chemin, avant de recevoir une vision et de former une véritable communauté. Et ce n'est pas étonnant que la première chrétienne d'Europe soit Lydie. C'est intéressant, hein ? Quand il y a un truc important dans la Bible, d'abord c'est les femmes. Ce n'est pas à des hommes que Jésus est ressuscité, hein, est apparu ressuscité. En tout cas, pas d'abord, c'est à des femmes. Ce n'est pas étonnant que la première chrétienne d'Europe, le premier chrétien d'Europe, c'est une femme. Une femme humble, malgré un statut social important. Cette femme active, une négociante, savait être contemplative. Elle prenait le temps du sabbat pour écouter la parole de Dieu. Saint Augustin dira à propos de Lydie qu'elle était à la fois Marthe et Marie. Être Marthe et Marie. Ouais, je crois que c'est une invitation pour chacun des disciples du Christ, à commencer par les disciples en Europe. Être Marthe et Marie. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Actes à propos de Lydie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Et à peine Dieu parle-t-il au cœur de Lydie qu'elle se fait baptiser, elle et tous les siens, et qu'elle ouvre sa maison à Paul et à ses compagnons. Ce cœur qui écoute s'ouvre à la communauté et fonde la première église d'Europe. À ces messagers de l'Évangile, Lydie dira « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » Écoute de Dieu, souci de la communauté, hospitalité envers les étrangers. Trois gestes qui ont fondé l'Église en Europe. Écoute de Dieu, souci de la communauté, hospitalité envers les étrangers. Trois gestes dont l'Europe a encore besoin, plus que jamais. Amen.